Dans un registre un peu plus sérieux, la COVID aux États-Unis, je le disais tantôt, hier, on a passé le cap des 200 000 décès recensés. Dr. Julien Cavanagh est médecin neurologue, médecin français à l'hôpital général du Massachusetts. Jusqu'à juillet dernier, il était à la State University of New York Downstate Medical Center. Dr. Cavanagh, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, aux États-Unis, est-ce qu'il y a le même sentiment d'urgence face à la COVID qu'on pouvait constater, disons, fin mars, début avril?
Ça dépend où. New York, vous savez, je suis à New York là depuis le week-end dernier, et on est dans une situation ici où la ville peu à peu se relève. Donc ça reste une énorme préoccupation avec une prise en main de cette épidémie de façon très très agressive et très très sérieuse. Donc ça reste une obsession. Dans toute la Nouvelle-Angleterre et donc à Boston, dans le Massachusetts, c'est un peu le même esprit, mais c'est un très grand pays et il reste des endroits où ça n'est pas pris suffisamment au sérieux, ce qui explique le très grand nombre d'infections et très grand nombre de morts. Et puis il y a une fracture dans la société américaine, dans la population américaine, avec encore beaucoup de gens qui, entre guillemets, n'y croient pas.
Donc, parce qu'ils n'y croient pas, ils ne se protègent pas et ils veulent pas garder leur distance, c'est ça?
C'est quasiment devenu une fracture politique. C'est quasiment devenu, malheureusement, un affichage politique pour le citoyen de base de porter un masque ou pas. Et vous pouvez quasiment savoir qui vote en marchant dans la rue, en regardant qui porte un masque et qui n'en porte pas.
Ce que vous dites, c'est que les gens qui ont tendance à porter un masque votent davantage démocrate et ceux qui n'en portent pas votent davantage républicain, c'est ça?
C'est quasiment ça. Vous pouvez quasiment identifier les gens dans la rue. Et ça, c'est très, très, très dommageable que la classe politique et le président des États-Unis aient instillé cette situation-là dans la société, parce que finalement, ça vient envenimer quelque chose qui ne devrait même pas faire débat.
Écoutez, vous êtes médecin français résident aux États-Unis. Qu'est-ce que ça révèle sur l'âme américaine qui est ces combats identitaires, politiques, partisans entre pro-masque et anti-masque, de votre point de vue d'étranger dans ce pays?
Alors, d'étranger, je suis américain maintenant depuis quelques années, donc c'est aussi devenu mon pays. Ça révèle beaucoup de choses sur la façon dont ce pays se perçoit et dont la façon dont ce pays approche les problèmes, on a affaire malheureusement à des campagnes de désinformation dans un but politique. Vous ne croiriez pas le type de message que j'ai reçu après un certain nombre d'entrevues que j'ai fait notamment avec des médias canadiens, mais aussi avec des médias anglophones, des messages de soutien évidemment, mais parfois des messages m'accusant d'être payé par je ne sais quelle officine, de pas vraiment être médecin, de promouvoir une épidémie qui n'existe pas. Donc quand vous avez dans la société, dans une partie de la société, de tels mensonges, et plus c'est gros, plus ça passe, qui se propagent, peu à peu, c'est plus qu'une fracture, c'est un canyon.
Ça, ce sont des messages que vous recevez de correspondants américains, Dr. Cavanagh?
Mm-hmm, mm-hmm. Oui, oui. Ce sont des messages de gens lambda, y compris ici dans l'État de New York, plus souvent dans les endroits plus éloignés, moins urbains, qui ont été moins exposés à l'épidémie, en disant non, ça c'est pas vrai, c'est une mise en scène, cette épidémie n'existe pas.
On parle beaucoup de ces gens-là, on les appelle conspirationnistes, négationnistes, des gens qui disent, qui se situent sur un spectre qui va de « la pandémie n'existe pas, c'est une invention » à « ça existe, mais ce n'est pas si grave », en passant par « on veut nous implanter des puces 5G dans le nez ». Quand vous recevez ces messages-là, comme médecin, est-ce que vous essayez de raisonner avec eux ou vous pensez que ce sont des gens avec qui il est impossible de raisonner?
J'ai envie de croire qu'on peut encore raisonner, mais vous savez, parfois les bras m'en tombent. quand vous avez quelqu'un qui ne croit pas le témoignage de première main, si vous voulez, le témoignage oculaire de quelqu'un comme moi qui a vu les dizaines, les centaines de patients, qui a vu les camions réfrigérés remplis des corps des personnes qui étaient mortes, c'est très difficile de raisonner. Donc voilà, on a finalement quoi comme option? Bien travailler avec la portion de la population qui est en mesure de comprendre le message de santé publique, rendre un certain nombre de choses obligatoires. Hein. C'est pour ça que vous voyez pas de masque, pas de service dans un certain nombre de boutiques, d'endroits, etc. Et d'avancer comme ça du mieux qu'on peut. Et puis aussi avec l'espoir que si peut-être il y a un changement d'approche au niveau de la politique fédérale, on avancera aussi vers un meilleur contrôle de l'épidémie.
Et on parle beaucoup de Donald Trump qui est, disons, pas pro-masque et qui envoie des signaux pour dire que tout est normal. Hier encore, il disait à ses supporters, le Dr Kavanaugh, écoutez, c'est une maladie là, qui n'est pas si grave que ça. Si le président des États-Unis était pro-masque, s'il prenait la pandémie au sérieux, pensez-vous qu'il y aurait autant de négationnistes ou ça changerait rien?
Bah, il y en aurait sans doute quand même, mais il y en aurait très certainement moins, puisqu'il a une énorme influence et donc une énorme responsabilité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Donald Trump est obligé, son fonds de commerce, c'est d'être contre le système. Donc il ne peut pas être du côté des gens raisonnables, il ne peut pas s'aligner sur les gens qui prennent ça au sérieux, comme Trudeau, Macron ou d'autres, puisque s'il commence à rentrer dans le rang du système, il perd son originalité, il perd sa marque de fabrique qui fait son succès auprès de ses supporters. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Donc c'est pour ça qu'il le fait à mon sens. Donc pour répondre à votre question, oui, évidemment, une partie de ses supporters deviendrait sans doute pro-masque, mais il en perdrait sans doute une autre partie qui serait déçue de son adhésion au système, tout ce qu'il appelle le système.
On est avec Dr Julien Kavanaugh, médecin neurologue au Massachusetts, français d'origine, maintenant naturalisé américain. Dr Kavanaugh, il y a une agence de santé publique remarquable qui s'appelle la CDC, les Center for Disease Control, dont l'expertise était sollicitée partout dans le monde pour toutes sortes de problèmes qui dépassaient là, les cadres des États-Unis. Les CDC ont contribué à mener le combat contre l'Ebola en Afrique. Et on a l'impression que l'expertise des CDC s'est affaisée pendant le règne de Donald Trump. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est avéré?
Alors, je ne crois pas que le niveau d'expertise se soit affaissé. Je crois que ça reste un des joyaux du système de santé public américain. Mais le CDC a été affaibli par Donald Trump, tout simplement parce que avec son gouvernement et avec son secrétaire à la santé, il y a eu une tentative de prise en main du CDC. Il y a eu, par exemple, le fait qu'il soit imposé que le site Internet dise que si on n'avait pas de symptômes mais qu'on avait été exposé à quelqu'un qui souffrait de la COVID, on n'avait pas besoin de se faire tester, ce qui est un non-sens quand vous avez plus de la moitié des gens qui peuvent être asymptomatiques. Et ça, on sait aujourd'hui que ce message, ce mauvais message de santé publique sur le site internet de la CDC était téléguidé par le ministère de la Santé et pas par le CDC soi-même. Donc ça vient altérer la confiance qu'on porte au CDC et ça ne... Je ne crois pas que ça, pour l'instant, change la qualité intrinsèque du CDC. Donc ça ne l'altère pas, ça ne l'affaisse pas, mais ça l'affaiblit. C'est extrêmement dommageable.
Dr Anthony Fauci est le visage de la lutte à l'infection et depuis longtemps a combattu d'autres épidémies, d'autres afflictions. Là, par exemple, on pense au VIH-SIDA. Il a longtemps été aux côtés du président. Il a participé, Dr Fauci, à un panel à l'école de médecine de Harvard la semaine passée. Vous l'avez l'avez écouté. Son message, c'est quoi en ces temps, disons, assez tristes aux États-Unis?
Alors, déjà, c'était un message scientifique pour informer la communauté médicale des derniers développements de l'épidémie, de la virologie, des traitements et des vaccins. Et lui essaye de rester factuel. Mais ce qu'il propose n'est pas embrassé par le pouvoir fédéral. C'est ça tout le drame. Donc, il continue de tracer sa route avec l'affirmation de faits scientifiques. Il a notamment, pendant cette conférence, insisté très précisément sur le fait que, contrairement à ce que disait Donald Trump, l'Union européenne ne faisait pas pire que les États-Unis. C'était très franchement l'inverse, et qu'il y avait deux fois plus de morts par habitant ou par million d'habitants, de toute façon vous voulez regarder les chiffres, deux fois plus de morts aux États-Unis comparé à l'Union européenne. Donc il continue à affirmer son message de santé publique, mais dans beaucoup de moments, il est muselé par l'administration Trump, qui l'empêche de parler dans la presse et qui, comme vous l'avez constaté, ne lui demande plus de participer au point presse du président sur l'épidémie de Covid-19. Donc, il fait ce qu'il peut, le pauvre Anthony Fauci. Il reste au top de ce que l'Amérique a à offrir en termes de science et de santé publique, mais encore faut-il que son message puisse être entendu et écouté.
Dernière question. C'est un pays, bon, vous êtes naturalisé américain, vous avez grandi en France. Trouvez-vous que quand on voit comment la pandémie a été affrontée avec, disons, beaucoup de laisser-aller dans ce pays-là, avec un message politique qui était quasiment dans le négationnisme, trouvez-vous que la vie humaine dans ce pays-là a parfois un coût moindre que ce qu'on peut constater en Europe, par exemple?
C'est très difficile de répondre à ça, mais je crois que je voudrais terminer quand même par un message d'espoir et de résilience, parce que là, vous voyez, je passe mon temps entre Boston et New York, où la vie peu à peu reprend son cours. L'approche à New York est extrêmement agressive face à cette épidémie qui est vraiment prise à bras-le-corps. Si vous arrivez d'un état où l'épidémie n'est pas contrôlée à New York, vous devez donner votre numéro de téléphone. On vous appelle, on vous envoie des SMS plusieurs fois par jour pour que vous restiez en quarantaine. On vous envoie vous faire tester gratuitement. Hein. Il y a une levée du confinement qui est extrêmement prudente et extrêmement progressiste. Et ça marche. Ça veut dire que, vous savez, on est passé à 100 000 morts à l'échelle des États-Unis le 25 mai. Là, aujourd'hui, 22 septembre, on est passé à 200 000. Mais entre-temps, entre le 25 mai et le 22 septembre, sur New York City, sur la ville de New York, on a eu moins de 400 morts. Vous voyez la différence?
Docteur Kavanaugh, vous soulignez qu'à New York, dans l'État de New York, les tests de dépistage sont gratuits. C'est pas le cas partout aux États-Unis?
Alors, c'est censé être le cas partout, puisqu'il y a une loi fédérale qui oblige les assurances à les prendre en charge, mais vous savez, le système d'assurance santé aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué, et donc il y a encore des moments où des gens se retrouvent avec une facture pour payer leurs tests, parce que le laboratoire qu'ils pratiquent ne veut pas travailler avec l'assurance,
incroyable,
etc. Enfin bon, voilà. Ouais,
ouais. Très bien. Merci beaucoup, Dr Kavanaugh. Merci de nous avoir parlé.
C'est moi qui vous remercie. Bonne fin d'après-midi.